Bien, si vous voulez bien, nous allons commencer. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir, dans le cadre de notre série Islam et politique, Leila Darkly, qui est chercheur au CNRS, à l'IREMAM, à Aix-en-Provence. Leila Darkly est une historienne, spécialiste de l'histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain. Elle est associée à la chaire d'histoire du monde arabe contemporain au Collège de France. Elle a animé un séminaire sur l'histoire des journalistes à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est également membre du secrétariat de rédaction de la revue d'histoire Le Mouvement Social. Elle a publié un certain nombre d'articles sur des questions touchant à la question du paysage intellectuel au Proche-Orient et un ouvrage important tiré de sa thèse, Une génération d'un intellectuel arabe, Syrie et Liban, 1908-1940. Et donc ce soir, elle va nous parler des mouvements réformistes musulmans, un sujet évidemment qui constitue un petit peu une pierre angulaire pour la question du lien entre islam et politique. Je lui cède la parole.
Merci. Alors, je voulais commencer par vous remercier de m'avoir invité à faire cet exposé ici et aussi de m'avoir invité à faire cet exposé particulièrement difficile, je tiens à le dire, puisque ce sujet... En dehors du fait que c'est une incursion, en dehors de ma spécialité directe, c'est un sujet extrêmement complexe et dont j'ai voulu tenter de restituer ici à la fois, disons, les grandes lignes, mais aussi la complexité. Parce que, vous le savez certainement, cette idée de réforme dans l'islam et l'identification de ceux qui furent les réformateurs musulmans ou les réformistes, hein, j'utiliserai les deux mots de manière équivalente, hein, réformiste ou réformateur, et encore aujourd'hui l'objet de discussions assez vives, pas forcément de polémiques, mais de discussions, disons, qui peuvent atteindre un certain degré de complexité. J'ai la chance justement de ne pas être complètement spécialiste et de pouvoir regarder en historienne cet épisode de l'histoire intellectuelle, justement du point de vue de l'histoire intellectuelle, et donc d'essayer de comprendre comment émergent ces idées, d'où elles viennent, et peut-être, j'en parlerai un petit peu, où elles vont, même si je ne sais pas si les idées vont vraiment quelque part, mais nous verrons. Donc je me suis d'abord posé la question, en préparant cet exposé, de l'objet auquel il fallait que je m'attache. Les mouvements réformistes musulmans sont d'abord des mouvements intellectuels qui ont pour objectif de réformer l'islam pour le moderniser, ou plus précisément pour le rendre plus compatible avec le monde moderne. Ça souffle, je vais m'éloigner un peu. Le titre de cette conférence s'accompagne, dans son énoncé tel que vous l'avez vu tout à l'heure, de deux bornes chronologiques qui sont heureusement fort vagues et que j'ai données il y a un certain temps, qui vont, vous le verrez, poser des problèmes et sur lesquels je vais revenir. Je ne m'y tiendrai pas complètement. Je vais à la fois me concentrer sur la période du XIXe siècle, qui est celle, disons, de l'âge d'or des réformistes, mais faire des incursions dans des périodes un peu plus anciennes. Et surtout, je n'irai pas jusqu'à nos jours. Je vous l'annonce d'emblée. Je poserai la question du devenir de ces mouvements aujourd'hui, mais je ne tracerai pas de ligne linéaire menant des mouvements réformistes du 19e jusqu'à ce qui peut se passer dans l'islam aujourd'hui. Donc, stricto sensu, en tant que mouvement intellectuel et que courant d'idées, le mouvement réformateur démarre, dit-on, à la fin du 19e siècle, le dernier quart, et s'achève avec l'essor des mouvements dits islamistes dans l'entre-deux-guerres. Voilà une des bornes chronologiques un peu plus précises et qui me semble pouvoir faire à peu près consensus. Il me faut quand même contester et affiner tout cela pour remplir l'objectif que je vous ai déjà énoncé, que je me suis fixé, c'est-à-dire à la fois de rendre les choses plus claires et plus complexes. D'abord parce qu'il est bien difficile de signer l'apparition d'un courant intellectuel, toujours préparé en amont par d'autres, émergeant toujours dans la pensée de quelques-uns à un certain moment de leur parcours qu'il est très difficile d'identifier. Nous verrons ensemble que cette histoire commence bien plus tôt et qu'elle n'est probablement pas encore achevée. Mais ce que je voudrais bien garder dans le titre, c'est le pluriel, les mouvements réformistes musulmans, puisque lui est non seulement valide, mais absolument nécessaire. Je partirai, si vous le voulez bien, de ce pluriel. Les mouvements réformistes musulmans ne sont pas constitués autour d'un seul groupe, dans un seul endroit, ni même autour d'un même corps de doctrine. Ils ont des points communs, des points de rencontre, des personnages clés, mais ils divergent souvent et s'ancrent dans des contextes et des territoires fort divers. Ce qu'ils ont en commun, c'est la définition qu'en donne Sabrina Mervin dans son Histoire de l'islam. Je crois qu'elle est là, voilà. Une définition assez générale. Le réformisme musulman est à la fois retour aux écritures et reformulation du dogme en vue de répondre aux exigences du siècle. Sabrina Mervin, qui est bien plus spécialiste que moi de ces questions-là, pèse soigneusement, chacun de ces mots en écrivant cette définition. C'est une définition qu'on pourrait considérer comme minimale, qui en particulier évite de donner une forme, de donner une forme à la reformulation du dogme, et camoufle, le mot complexe de modernité, sur lequel je reviendrai, en siècle et ses exigences. Et je crois qu'elle a raison d'être prudente dans cette formulation. Il ne s'agit pas pour moi, évidemment, de critiquer cette définition. Je pense que son caractère général, qui est formulé soigneusement, montre bien à quel point nous ne devons pas nous contenter d'une histoire qui mettrait au centre ce que Catherine Mayer, dans une conférence à laquelle j'ai assisté avec elle, à l'AHCESR, une chose très bizarre qui s'appelle l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, qualifiée de trinité, donc la trinité, c'est Afrani, Abdou et Rida, sur lesquels je reviendrai. Cette conférence est accessible en ligne, d'ailleurs, vous pouvez la voir. Mais il faut bien reconnaître que l'histoire qui partait de cette trinité au Caire, telle qu'elle était donc racontée avant, je reviendrai sur cet avant, était plus simple. Je cite cette fois Catherine Mayer, je vous ai mis la citation aussi. Voilà comment c'était raconté. Au commencement, il y aurait eu Jamal ed-Din Afrani, mort en 1897, suivi par son élève, l'Égyptien Mohamed Abdou, mort en 1905, qui aurait à son tour transmis le flambeau de la réforme aux Syriens, installés en Égypte et fondateurs du Manar, Rachid Rida, mort en 1935. Ses pères fondateurs de la Salafia auraient ensuite passé le relais aux frères musulmans, notamment à Hassan al-Banna, mort en 1949, et l'on aurait ainsi l'inéluctable et téléologique avènement de l'islamisme militant. J'ai repris cette citation de Catherine Mayer parce que je la trouve très claire, on aurait pu l'énoncer autrement, mais disons qu'il faut partir de ce récit partagé, en tout cas communément diffusé, pour pouvoir par la suite le contester ou bien sûr l'affiner. La définition de Sabrina Mervin que nous voyons tout à l'heure, qui était plus prudente et ouvrant sur plus de possibles, pose immédiatement évidemment plus de problèmes qu'elle n'en résout, puisqu'elle expose d'emblée la tension, je peux la remettre si vous voulez, la tension qui habite la notion de réformisme musulman, tension qui a été souvent caricaturée sous la figure modernité versus tradition, retour à la lettre versus interprétation. Bref, on comprend que le phénomène a besoin d'être situé pour être compris. Gardons néanmoins en tête cette définition pour ce qu'elle nous dit des tensions et contradictions que nous allons trouver et voir évoluer. Car si l'on veut sortir de la Trinité, on peut évoquer des noms. Alors là, j'ai fait un petit jeu. Donc j'ai donc la Trinité qui apparaît sous vos yeux. Et ensuite, vous allez voir que si on veut s'attacher à d'autres noms de réformateurs, on va avoir auparavant, toujours au Caire, les Farah Tahtawi. On va avoir la grande figure du réformateur tunisien Khalidine Pacha ou Kheireddine Pacha. On va aussi avoir à Tunis Tahar Haddad, qui accompagne ce mouvement réformateur, en particulier sur la question féminine. À Damas, Tahar al-Jazairi. À Alep, Abdelrahman Kawakibi. Et je peux continuer, donc, Norman Choukri al-Alousi à Bagdad. Et encore plus haut, vous voyez à droite, c'est apparu, donc le fondateur du mouvement des Wahhabis, sur lequel je reviendrai, Mohamed ibn Abdelwahab en Arabie, et d'autres en Inde, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, de nouveau au Caire, en Algérie, en Tunisie, au Liban, encore à Damas, ou encore ailleurs, on y reviendra. Donc si on veut complexifier, il s'agit évidemment, je ne vais pas vous assommer, j'ai fait ça exprès d'ajouter tous ces noms maintenant pour que par la suite on puisse ne pas trop rendre les choses complexes en multipliant les noms et les différentes théories. Mais enfin, il s'agissait de donner quand même une petite idée de la complexité de ce paysage et du foisonnement hein, de pensées réformatrices, à la fois au XIXe, mais aussi au XVIIIe. Hein, je reviendrai là-dessus. Certains de ces auteurs et de ces théoriciens sont des penseurs du XVIIIe siècle. Donc, devant la difficulté de saisir d'un seul regard ces mouvements, je vous propose ici une démarche qui prend appui sur ce que j'ai appelé, disons, des sortes de vérités massives que l'on peut entendre ou lire sur ces courants réformateurs. Une sorte de contre-pied qui permettra peut-être, en conclusion par la suite, de tracer un portrait chinois des mouvements réformistes musulmans et de poser quelques questions, comme je vous l'ai dit, sur le contemporain. Pour commencer, je voudrais rendre à César ce qui lui appartient, formule qui, d'ailleurs, nous le reverrons dans le cadre du travail sur les réformateurs, est une formule qui est centrale pour la question du réformisme, puisque, d'après les réformateurs, on ne peut pas dire une chose pareille dans le contexte musulman, donc un contexte typiquement chrétien, qui dit « rendons à César ce qui lui appartient ». Si nous abordons la question avec ces idées toutes faites, sur lesquelles on peut dès lors s'appuyer pour avancer, c'est grâce notamment au travail de l'historien Albert Hourani, qui, il y a un peu plus de 50 ans, a publié un ouvrage qui fait encore aujourd'hui autorité sur ce qu'il a appelé l'âge libéral de la région, Arabic Thought in the Liberal Age, donc 1962. Et parmi les signes de ce libéralisme intellectuel, il y avait, selon lui, l'émergence d'un groupe de penseurs musulmans modernistes, principalement situés en Égypte, autour de l'université d'Al-Azhar, qui cherchait à adapter l'islam au monde moderne et à répondre en musulman à la question majeure de la Nahda, donc de l'essor intellectuel, de la renaissance intellectuelle arabe, question qui est donc pourquoi sommes-nous en retard. Donc avec Hourani, on isole un groupe d'intellectuels musulmans autour d'une notion forte, celle de l'islah. Je crois que c'est la première fois que je prononce ce mot, hein, c'est le mot qui signifie réforme en arabe. J'y reviendrai. L'islah devient une réponse musulmane à l'impérialisme et à l'emprise croissante des Européens sur ces régions. L'islah, il faut le comprendre, dans le paysage de Hourani, s'oppose d'abord aux courants intellectuels qui lui sont contemporains, qui eux aussi recherchent la modernité, notamment via le sécularisme. Là aussi, il faudra y revenir. C'est le sens qu'il donne, par exemple, à la fameuse controverse entre Farah Antoun, intellectuel socialisant, et Mohamed Abdou sur Averroès. Ce que l'on comprend à la lecture de Hourani, c'est que le contexte de l'émergence de cette pensée est celui de l'arrivée du colonialisme, facteur de radicalisation. D'emblée, donc, j'ajoute un terme à la définition préalable, le réformisme musulman est politique. J'ai mis ici, je crois, un des commentaires de Hourani sur les réformateurs. Il dit « La Ummah, donc la communauté des croyants en islam, était entre autres choses une communauté politique qui s'exprimait dans toutes les formes de la vie politique. Or, une communauté sans pouvoir risque de cesser d'exister. Le problème de la décadence interne, question de la génération précédente, celle des Tahtawis par exemple, continuait à préoccuper l'esprit de ces hommes. Mais un nouveau problème de survie s'y greffait. Comment les pays musulmans pouvaient-ils résister aux nouveaux dangers extérieurs ? Donc voilà un élément supplémentaire à ajouter à la définition que nous avions jusqu'à présent des réformistes. Donc première raison pour laquelle nous avons cette perspective, c'est qu'effectivement les défricheurs de l'histoire intellectuelle dans les années 60, Hourani puis d'autres, hein, Niki Kedouri et d'autres encore, ont adhéré à cette perception du courant réformateur et l'ont surtout situé à l'intérieur de la Nahda comme en opposition avec d'autres mouvements plus séculiers et plus, disons, je dirais pas, jusqu'à dire laïque, mais surtout plus séculariste, effectivement. Deuxième raison de la perspective que nous adoptons le plus souvent sur ces mouvements, donc cette fameuse définition autour de la Trinité, c'est une lecture rétrospective qui cherche à trouver dans ces mouvements la généalogie de l'islamisme contemporain. C'est la perspective qui est critiquée par Catherine Mayer-Jawan dans la citation que je vous ai évoquée tout à l'heure. Cette généalogie, vous le savez, est revendiquée aujourd'hui par certains, notamment par Tariq Ramadan dans ses ouvrages, et se lit clairement dans l'histoire du Parti des Frères musulmans. Mais elle ne semble pas non plus devoir être lue de manière trop linéaire et surtout de manière trop simple. Elle a pour effet de gommer les voies du réformisme, de les simplifier, de nous empêcher de voir les évolutions à l'intérieur de ces pensées et les potentialités différentes qu'elles portaient, voire ce qu'elles ont pu engendrer ou inspirer d'autres que l'islamisme. Avant d'examiner les différents aspects à discuter, nous allons donc nous en tenir à la définition de Sabrina Mervin du début, qu'elle complète elle-même en accord avec ce que nous venons de dire avec Rolani. Toutefois, le réformisme devint un mouvement social uniquement dans le cadre de la résistance à l'impérialisme européen. Donc vous voyez comment un mouvement intellectuel qui prend son fondement dans un constat qui concerne la vie des musulmans et l'état de l'islam à un moment donné s'ancre dans un contexte et prend sens par rapport à ce contexte. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'articuler cette présentation autour d'un certain nombre d'assertions que je souhaite nuancer, compléter ou éventuellement contester. La première, c'est le réformisme musulman né en Égypte dans le dernier quart du XIXe siècle. On a commencé évidemment à contester un petit peu cette affirmation. J'ai donné quelques éléments de réponse en évoquant les autres noms de la réforme. Habituellement, on considère que l'arrivée de Jamal ed-Din al-Afghani, qui lui-même a été d'abord formé en Inde et peut-être dans les lieux saints chiites de Najaf et Karbala, passé par Istanbul, donc son arrivée en Égypte en 1871 est, semble-t-il, ce qu'on peut considérer comme le commencement du mouvement de l'Islam. Il y fonde un mouvement de disciples qui compte simultanément, et c'est important, Mohamed Abdou, qui sera son continuateur théoricien, ainsi que son contradicteur sur un certain nombre de points, et aussi le nationaliste égyptien Saad Zarloul. Afran y met effectivement en œuvre une dynamique forte. Il incite chacun de ses disciples à travailler à l'unité de l'islam pour combattre la présence européenne de plus en plus forte dans l'Empire ottoman et pour combattre le despotisme à l'intérieur de ce même empire. Pour cela, il incite à agir en intellectuel et à fonder des journaux, notamment. Le réformisme musulman ne se limite certainement pas aux frontières de l'Égypte et d'Al-Azhar, ni même du monde arabe, déjà à cette époque-là. Jamal ed-Din Afghani lui-même poursuit cette œuvre par la suite, depuis les contrées de son exil. On le sait, il est passé en France, où il a publié les 18 numéros de El Rawl al-Wathqa avec Mohamed Abdou. Et on le sait aussi, c'est à Paris qu'il a fait cette fameuse controverse avec Ernest Renan, la réponse à la conférence de Renan sur l'islamisme et la science. Et cet exil et ces différents lieux de l'exil lui permettent d'exposer ses idées sur la compatibilité entre la foi musulmane et la science, ou la foi musulmane et la modernité. Son principal disciple, le Cheikh Mohamed Abdou, met en œuvre une forme d'engagement dans le siècle, et lui aussi exilé à la suite de la révolte anti-britannique de 1881-1882, part pour le Liban pour faire des conférences. Enfin, le troisième personnage de la Trinité, Rachid Rida, syrien originaire de Tripoli, qui rencontre la pensée de Abdou lors de ses conférences, le suit au Caire, où il fonde le principal journal de la réforme, El Manar. Alors, pour dire que tout n'a pas commencé en 1871, il faut d'abord dire qu'il y a un certain nombre de penseurs, de maîtres à penser qui ont préparé la réforme en lui donnant des outils théologiques et critiques dont elle se sert. Contrairement à ce qu'affirmait la doxa, ou ce qu'affirme parfois toujours la doxa, l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de lecture du texte et d'interprétation du texte coranique, ne s'est pas arrêté au Xe siècle. mais des penseurs postérieurs se sont mis dans cette voie et se sont proclamés Mujaddidoun, hein, Mujaddid, suivant à cela un hadith attribué à Muhammad qui dit « Dieu enverra à cette communauté, à chaque début de siècle, celui ou ceux qui rénovera sa religion. » Donc la question du rénovateur s'incarne dans un certain nombre de figures, hein, donc, que sont par exemple Abu Hamid al-Razali, mort en 1111, auteur d'un traité sur la revivification des sciences religieuses, qui critique déjà l'état de décadence de l'islam de son temps, son éloignement des valeurs véritables de l'islam, et qui critique aussi, c'est un élément important, vous verrez dans la pensée réformatrice, les autorités religieuses de son temps. Deuxième personnage, Ibn Taymiyyah, qui est extrêmement utilisé par les pensées réformistes, mort en 1328. Il s'engage pour sa part contre une puissance étrangère. C'est aussi de cette manière que vont s'en emparer les réformateurs, en l'occurrence les Mongols, dont il critique la conversion à l'islam. Il critique également fortement les Khalijites, dont les chiites, et certaines pratiques soufies, j'y reviendrai. Dernier personnage, Abdelrahman As-Suyuti, mort en 1505, se considère lui comme le Mujaddid de son siècle, mais son œuvre est moins consensuelle à l'intérieur de la pensée réformatrice. Ces penseurs ne suscitèrent pas, en leur temps, un mouvement social, hein, si je reprends la formule de Sabrina Mervin, en tout cas pas un mouvement de réforme, mais ils furent importants par la lecture qui en a été faite bien plus tard. Deuxième élément pour nuancer cette apparition du réformisme en 1871, c'est le fait qu'on ne peut pas comprendre l'itinéraire de ces trois principaux réformateurs du Caire sans évoquer les mouvements qui les ont précédés, directement précédés, et qui ne furent pas simplement, cette fois-ci, ni de douces rêveries, ni des œuvres théoriques, puisque parmi eux se trouve le mouvement wahhabite, dont l'idéologie est toujours le socle du royaume d'Arabie Saoudite et de nombre de mouvements qui s'y réfèrent. L'effervescence autour de la question de la réforme naît en réalité réellement au siècle précédent, au XVIIIe siècle. C'est ce que les universitaires américains, je ne sais pas si c'est rentré dans le vocabulaire français, appellent le revivalist thought, c'est-à-dire la pensée du renouveau religieux, hein, voulant dire qu'en fait ce sont des pré-réformateurs qui n'ont pas immédiatement impulsé directement de mouvement, mais qui ont été les inspirateurs du réformisme. Au centre de la démarche, comme pour les réformateurs du XIXe, il y a le renouveau de l'ijtihad, le retour au texte et à l'interprétation, que la doctrine sunnite orthodoxe considérait comme close, je l'ai dit, depuis le Xe siècle. Le lieu de formation et d'élaboration de ce nouvel ijtihad semble être principalement Médine, pour les sunnites, un lieu de passage de tous ceux qui cherchaient le savoir, mais aussi, c'est intéressant, les lieux saints chiites de Najaf et Karbala, par lesquels un certain nombre d'entre eux sont passés. Dans un article assez ancien déjà d'Ahmed Dalal qui explique les origines de ce mouvement du renouveau religieux, il met en question la notion d'école. On a souvent parlé d'une école de Médine pour parler de l'ensemble de ces penseurs. Et il montre comment, justement, venant de contextes différents et de cultures différentes, ils ont pu à la fois faire un parcours de savoir assez similaire qui passe par ces lieux que je viens d'évoquer, mais aussi, ce qui est important dans la pensée réformatrice, se réancrer dans un contexte très particulier qui est celui de l'Inde, si j'évoque les noms que j'ai mis là derrière, de l'Inde, du Yémen, de l'Afrique ou de l'Arabie, ou encore de l'Empire russe. Je ne vais pas rentrer dans le détail forcément de tous ces personnages, mais c'est intéressant de voir que, par exemple, le fondateur, le réformateur indien Shawali Allah Dehlavi, qui est un savant, qui est vraiment un théoricien, a quand même donné naissance à un certain nombre de mouvements qu'on considère comme tous originairement liés à sa pensée et qui sont à la fois des mouvements très intellectuels, réformistes, comme celui d'Ahmed Khan ou des mouvements très traditionnalistes qui sont des mouvements d'études et de retour vraiment à une forme de piétisme, et ou des mouvements plus radicaux prônant le djihad. Hein. Donc on est vraiment dans un espace qui produit localement des interprétations et des mouvements divers. Il est intéressant de s'arrêter juste un instant sur les mouvements qui naissent dans l'Empire russe, puisque là aussi ils vont inspirer en partie, en tout cas ils vont être une source d'inspiration pour la contestation, disons, de la politique anti-musulmane hein, de l'Empire russe, puisque Abdelnasser el-Khorsawi, le tatar de la Volga, donc, qui est évoqué là, qui est mort en 1812, a développé une vraie réponse à la politique impériale en travaillant via l'éducation à former un mouvement qui devient assez vite un mouvement d'affirmation nationale, hein, à connotation religieuse. Et donc cet effort, ce travail sur l'éducation et cette façon d'essaimer à travers l'éducation est peut-être un des héritages de ce mouvement-là. Je vais un peu vite sur les autres mouvements. Je vais m'arrêter quand même un instant sur le wahhabisme et sur le mouvement fondé par Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il appartient lui aussi à cette famille, hein, cette école, disons, hein, formée à Médine. Mais il faut s'y arrêter puisque, évidemment, il a été considéré comme l'une des sources, voire l'unique source du fondamentalisme islamique. Alors, qu'est-ce que le wahhabisme, hein, j'ai essayé de donner quelques éléments. Il y a évidemment au centre le retour aux origines, hein, salaf. Deuxième élément important, mais que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est la revitalisation de l'ijtihad et de l'étude des hadiths, donc le retour à l'étude. Troisième élément, le rejet de l'innovation et de l'imitation. Hein, on reviendra là-dessus, c'est-à-dire une sorte ça peut s'appliquer à la fois au rejet des formes dérivées, disons, populaires de ritualisation liée à l'islam, mais aussi évidemment à tout ce qui est emprise étrangère. Autre élément, le quatrième, le rejet des excès du soufisme, sur lequel on va revenir tout de suite. Et dernier élément important, hein, le tawhid, il se considère comme les muwahidoun, hein, ceux qui font l'unité de l'islam. Ce qui, évidemment, entre en contradiction avec un certain nombre de critiques qu'ils adressent aux autres musulmans. Donc on reviendra un petit peu là-dessus. Ces éléments, on les retrouve chez la plupart des réformateurs sunnites, sous des formes toutefois très différentes, notamment sur la question du retour aux origines et à la pureté originelle. C'est pour ça qu'on parle de fondamentalisme wahhabite, qui insiste fortement sur cet aspect, comme sur le dernier hein, que je viens de commenter, sur le tawhid, qui légitime les attaques contre tous les penseurs sunnites divergents et contre les branches non sunnites de l'islam. D'autres aspects liés en particulier à la situation politique des Saouds, comme l'exaltation du djihad, ont été moins relayés, en tout cas à l'époque. En tout cas, le wahhabisme est un point de référence important, même s'il n'est pas unique, pour les réformistes. Il faut noter que Gilbert Delannoy, lorsqu'il a écrit son travail sur les chiites et sur les penseurs de l'islam en Égypte, a été très frappé par l'indifférence générale au wahhabisme. Donc c'est un nouveau au XIXe siècle, pardon. Et c'est vrai que finalement, on voit apparaître des réponses au wahhabisme de manière assez tardive et probablement surtout à partir du moment où le wahhabisme s'incarne dans l'État des Saouds. Hein. Donc c'est moins au temps de Mohammed ibn al-Wahhab lui-même qu'il y a des réponses et des polémiques qu'après, au moment où cette pensée s'incarne dans un régime politique. Il faut savoir que aussi à ce moment-là, le wahhabisme s'associant au premier État arabe musulman indépendant de la région, prend une force d'exemple assez importante. Deuxième vérité générale, les réformistes sont sunnites. Alors oui, pour l'instant, on a parlé essentiellement des sunnites, car l'enjeu de la réforme de l'islam, placé au cœur de l'Empire, c'est l'orthodoxie. C'est l'islam qui doit gouverner. Donc cet islam orthodoxe implique une forme d'appartenance à la majorité sunnite. Déjà, à l'époque de Jamal ed-Din Afrani, ses adversaires laissaient entendre qu'il était chiite parce que persan et non afghan. Bon, certains d'entre vous savent à quel point l'origine réelle ou supposée de Jamal ed-Din Afrani a été un objet de discussion infinie. Mais si on lui attribue une origine persane, on considère qu'il est probablement chiite. Et s'il est afghan, comme le dit son nom, il est possiblement moins chiite. Voilà. En effet, ce qu'on pourrait appeler, disons, le canal historique de la réforme est bien sunnite, voire situé dans l'un des cœurs de la formulation de l'orthodoxie, le Caire et son université Al-Azhar. Alors que l'autre cœur, lui aussi sunnite, le cœur politique, est lui plutôt tenu par des religieux conservateurs. J'y reviendrai donc, le cœur politique, c'est-à-dire Istanbul. Le projet est bien celui de régénérer l'islam officiel en lui redonnant un socle plus adapté aux défis du monde moderne. Considéré comme un projet à deux faces, le projet réformateur entend, à l'extérieur, lutter contre l'influence européenne et à l'intérieur, restaurer l'orthodoxie. Pourtant, nous savons maintenant, grâce aux travaux d'un certain nombre de chercheurs, que les mouvements réformateurs ont été également très forts dans le chiisme, dans de nombreux endroits, à Calcutta, en Inde, à Téhéran, à Najaf, les noms sont devant vous, et puis dans certaines régions où on a des fortes minorités chiites, comme au sud Liban, je renvoie bien sûr ici aux travaux de Sabrine Mervin, que j'ai déjà citée, qui a fait sa thèse sur ces réformateurs chiites autour de la revue El Alfan à Saïda au Liban. Bien plus, ce que Sabrina Mervin et d'autres ont bien montré, c'est que l'une des dimensions essentielles de l'islam, c'est de se battre pour l'unité des musulmans. La réconciliation des différentes sectes, des différentes voies, à la fois à l'intérieur du sunnisme et au-delà, en direction du chiisme réformateur. Donc ce retour à l'ijtihad qui réunit un certain nombre de penseurs musulmans a parfois produit une forme de dialogue nouveau entre des réformateurs sunnites et des réformateurs chiites, les plus connus étant justement les réformateurs chiites du sud Liban de la revue El Alfan et, disons, leurs homologues sunnites de la revue El Manar, dirigée par Rachid Rida, et qui très souvent échangeaient leur point de vue et discutaient autour des questions, par exemple, des minorités druzes, des différentes sectes de l'islam. Donc les réformistes ne sont pas tous sunnites. Il y a des réformateurs chiites, bien entendu. Troisième affirmation, les réformistes sont anti-soufis. Dans les discours, les proclamations, je ne voudrais pas faire trop d'allusions à l'actualité, puisque comme je vous l'ai dit, je ne vais pas parler d'aujourd'hui, mais enfin vous le voyez, un certain nombre de mouvements se considérant comme les héritiers du wahhabisme en particulier, s'attaquent à la religiosité soufie, au symbole du soufisme et aux pratiques soufies. Donc on pourrait dire l'ennemi des réformistes sont les soufis. En cela, effectivement, ces djihadistes seraient les continuateurs des théories réformistes. C'est aussi, disons, une forme de mise en scène d'une lutte entre modernité et conservatisme, les soufis incarnant la religion installée et inchangée, alors que les réformistes incarneraient de leur côté une forme de modernité de l'islam. On s'appuie souvent pour cela, non seulement sur Mohamed Ibn Abouheb, qui était très critique vis-à-vis des pratiques soufis, mais aussi sur un texte de Rachid Rida, qui est un assez beau texte parce que, et très amusant, sur les soufis, où il les tourne en ridicule, où donc il va assister à une cérémonie soufie et il la dépeint comme une chose totalement idiote, avec des gens qui se livrent à des pratiques barbares, donc il les ridiculise littéralement. Pourtant, il faut dire deux choses à ce propos. Les origines soufies du réformisme musulman sont bien connues aujourd'hui par un certain nombre de travaux. Donc tous ces penseurs que j'ai évoqués sont partis d'une religiosité soufie, ne l'ont pas toujours complètement renié. Et donc, on gardait souvent des contacts avec des confréries soufis, tout en étant des penseurs réformateurs. Hein. Je renvoie ici aux travaux de David Cummins sur la Syrie, ou de James McDougall sur l'Algérie, hein, qui ont travaillé sur ces liens maintenus entre les confréries soufis et les réformateurs de l'islam. Deuxième élément pour contester ou pour nuancer cette affirmation, il y a des soufis réformateurs. C'est par exemple les travaux de Rachida Shih sur le cheikh Mohamed Hosseinan Makhlouf, donc un Égyptien qui défend à El Azhar une approche réformiste du soufisme. Alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est là aussi dans une perspective de conciliation avec les mouvements réformateurs de l'époque qu'il connaît bien, et de contestation. Alors son traité qui paraît justement en 1924 est l'un des premiers traités virulents de contestation du wahhabisme. Hein, qui dit, là, vous voyez, c'est vraiment coïncident avec la fondation, avec les premières victoires, la conquête de Médine par les Saoudiens, etc. Et donc, ce soufi va écrire un traité anti-wahhabite, mais pro-réformateur. Ça se complique, pour défendre un certain nombre de pratiques soufis et en condamner d'autres. Hein, donc, essentiellement, il dirige ses critiques contre les pratiques populaires, hein, les pratiques innovatrices qui détournent de la vraie foi, contre les cheikhs eux-mêmes, donc le personnel, ceux qu'il appelle les imposteurs. Mais il défend un élément extrêmement important et très critiqué par les wahhabites, c'est l'intermédiation des saints. Hein, donc, le recours aux saints. En somme, l'entreprise de Makhlouf, c'est de rendre le soufisme acceptable aux yeux des nouvelles couches instruites de la population, en le conformant aux idées réformistes, tout en préservant ses principes fondamentaux. Là, je cite ici Rachida Shih, hein, dans son article sur ce shir. Et c'est effectivement assez intéressant de voir comment une élite soufie va rallier le réformisme pour ne pas perdre le contact avec un certain nombre de, avec une élite qui se modernise, hein, et qui refuse de plus en plus un certain nombre de pratiques. Donc là j'ai mis les éléments, pardon. Mais en somme, voilà les éléments de la critique des soufis par les réformateurs. En général, effectivement, vient en premier la critique du culte des saints, critique d'un certain nombre de rituels particuliers qui sont des rituels qui implique une relation corporelle, hein, entre les participants à ces rituels, critique de l'ignorance des cheikhs et des rivalités entre eux. Et dans le cadre de l'Empire ottoman, c'est un élément extrêmement important, puisque le mouvement réformateur est un mouvement politique. C'est aussi une façon de critiquer le pouvoir impérial, hein, très lié à la hiérarchie soufie. Ce qui est en cause quand même dans la polémique entre soufis et réformateurs est extrêmement important. Le soufisme dans ce cas-là, hein, dans ce cadre-là, disons que c'est une notion qui habille un peu trop large, hein, mais les débats entre réformateurs et soufisme portent sur des questions plus précises et qui ont partie liée avec les pratiques religieuses, le rôle des intermédiaires, la relation avec Dieu, etc. On pourrait dire, pour généraliser, qu'il y a un certain élitisme dans la position des réformateurs. Il y a aussi une opposition radicale entre les soufis conservateurs et les réformateurs. Et là, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est extrêmement important de mettre en relation les opposants musulmans conservateurs aux réformateurs. Les uns, ces soufis conservateurs, défendant le statu quo, l'empire, la religion officielle, et les autres défendant une adaptation de l'islam au temps moderne contre le despotisme. La révolution jeune turque de 1908, entre autres choses, va mettre au jour cette opposition forte. Quatrième affirmation, le réformisme musulman est une pensée libérale ou progressiste. C'est une affirmation un peu plus générale et un peu plus complexe que celle qu'on a vue jusqu'à présent. C'est une assertion complètement héritée de ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, du travail de Hourani. Et elle nécessite de bien situer la pensée réformiste dans son contexte historique. Mais comme nous l'avons vu, elle s'applique directement à une partie du réformisme et non pas à son entièreté. Donc première objection. C'est une pensée, la pensée réformiste, qu'on pourrait qualifier d'anti-impérialiste, puisqu'elle émerge en contexte pré- ou colonial comme une réponse possible. Niki Kedouri a écrit « C'est une réponse islamique à l'impérialisme ». Mais il faut aller probablement plus en détail dans la pensée réformiste, même celle de la fameuse Trinité, pour examiner cette question. En effet, dans les descriptions qui nous a souvent été faites de Mohamed Abdou et de Afrani, la sincérité même de leur engagement pour l'islam a été mise en doute par le fait qu'ils prenaient une vision rationnelle de la société. Le présupposé était donc, alors là, qu'il y avait incompatibilité entre religion et raison. D'une certaine manière, c'est ce que sous-entend la polémique qui est tellement mise en valeur par Houlani entre les rationalistes et les réformateurs. Mais ce fondement lui-même doit être questionné. C'est ce qui revient à questionner le libéralisme lui-même, si vous voulez. Qu'est-ce qu'être libéral dans un contexte réformateur musulman ? En effet, c'est ce que suggère ma traduction de libéral ou mon équivalence mise entre libéral et progressiste. Le réformisme est une pensée libérale en ce qu'il lutte pour la libération des musulmans. En tout cas, c'est ce qu'il proclame. Abdou écrit par exemple qu'il souhaite libérer les esprits des musulmans des chaînes de la croyance dans l'autorité, dans l'Isalat al-Tawhid. C'est le versant de la libération spirituelle, mais qui a des implications très concrètes de lutte contre un pouvoir politique. Il prend l'exemple, par exemple, du prêt à intérêt pour montrer pourquoi il faut faire évoluer les pratiques. Vaut-il mieux, dit-il, que des musulmans pratiquent le prêt à intérêt ou que les pays musulmans s'endettent auprès de puissances étrangères ? C'est à partir de ce genre de considération que l'on peut comprendre la notion centrale chez Abdou de misaine. Alors là, j'ai essayé de vous faire voilà, une sorte de petit résumé de l'équilibre où se tient le réformateur selon Mohamed Abdou. Cette notion de misane, donc, qu'il met au centre, c'est une façon de se libérer à la fois du taqlid, donc à la fois, disons, on pourrait dire la traduction ou l'imitation, hein, qui est une notion positive à l'origine dans l'islam, qui est devenue répétition de la traduction dans la pensée de Abdou, devient stagnation et donc prend une connotation négative. Et puis l'autre versant, c'est le tahrib, qui est à la fois l'adoption du mode de vie occidental, rarb, occident, mais aussi une aliénation, hein, il y a les deux sens dans le mot en arabe, hein, le fait de devenir étranger à soi-même. Donc pour combattre à l'intérieur le taqlid, donc l'obéissance aveugle à la traduction, et à l'extérieur le tahrib, il faut rechercher l'équilibre, le mizan, la balance, ça signifie la balance ou l'équilibre. Donc il place cette pensée réformiste entre ces deux extrêmes. Les textes de Abdou, par exemple, qui critiquent l'usage, enfin l'application des rituels de l'ablution, par exemple, sont des illustrations de ce que l'on pourrait mettre sous l'étiquette libéralisme. Il vaut mieux pouvoir pratiquer ces ablutions de manière plus libre plutôt que se conformer à la lettre à un rituel, puisqu'on est en cela plus fidèle au sens du message coranique. Ce qui est important à comprendre, me semble-t-il, c'est que ce libéralisme n'est pas un écart par rapport à la croyance. Il ne se considère pas comme une innovation, il est en harmonie, selon eux, avec la vraie foi. C'est ce que dit par exemple Amir Ahaj, qui a consacré un ouvrage aux réformateurs et en particulier à Abdou. Elle critique la manière dont on a jusque-là vu la figure de Mohamed Abdou comme un humaniste libéral ou un salafi libéral, ou parfois même comme un agnostique, puisqu'il cherchait à adapter la religion à la modernité. Ce consensus, me semble-t-il, dans cette vision du libéral islamiste, repose sur une idée forte et prégnante, celle qui fait du critère ultime de la modernité la sécularisation. C'est un implicite, disons, extrêmement fort dans tout ce qu'écrit Houlani, par exemple, et qu'il a lui-même reconnu quelques années plus tard. Il ne cesse, par exemple, de porter des jugements sur son éloignement, celui de Abdou, par rapport au vrai islam, ou ce qui est « truly islamic », comme il dit. D'une certaine manière, comme les penseurs conservateurs musulmans, il lui dénie le droit à l'ijtihad. Et il rejoint là les propos célèbres de Lord Cromer, gouverneur d'Égypte, que je cite en anglais, « Islam cannot be reformed. That is to say, reformed Islam is Islam no longer. It's something else. » Donc, l'idée dans laquelle les interprétations ou les gens qui ont pu s'attacher à essayer de comprendre les réformateurs, c'est de trouver cette ligne ténue à partir de laquelle les réformateurs ne sont plus musulmans ou ne sont plus musulmans que par tactique. Hein, on a fait, par exemple, de Jamal ed-Din Afrani un politicien en disant, finalement, son idée de la réforme, c'était une façon d'œuvrer pour le nationalisme égyptien, de travailler à un objectif qui était autre. Amir Al-Hajj, entre autres, prône une approche différente, qui me semble être bien plus raisonnable, c'est de prendre au sérieux le discours des réformateurs et de ne pas contester la sincérité de leur engagement dans l'islam. Mais du coup, ne pas contester leur sincérité dans l'islam, ça implique de se débarrasser, ou en tout cas provisoirement ou définitivement, de catégories comme traditionnalistes ou libéraux ou progressistes qui ne s'appliquent pas à ces penseurs en particulier, ou qui s'appliquent extrêmement difficilement, qui s'appliquent en, trahissant leur pensée. Avec ces outils, avec leurs outils, avec leur culture, avec les traditions et les éléments du contexte, chacun élabore sa réponse. Notamment, Abdou ne fait pas d'opposition entre religion sacrée et, ne fait pas d'équivalence entre religion sacrée et irrationnelle et séculier et rationnel. C'est complètement hors de propos dans sa pensée. Donc, ce qui émerge de cette réflexion sur la manière dont on peut qualifier ces mouvements et les considérer comme progressistes ou libéraux, c'est une chose qui est importante, c'est qu'ils sont porteurs d'une critique de l'idée de progrès comme voie unique, voie à sens unique. C'est une critique qui se fonde, c'est très présent dans les travaux de Abdou et dans les travaux de Afrani, sur le fait que l'islam n'a jamais eu de problème de séparation entre les pouvoirs temporels et spirituels. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en allusion à propos de la phrase sur « il faut rendre à César ce qui lui appartient ». Pour lui, cette question de la sécularisation, pour Abdou, c'est tout simplement une exportation ou une importation des problèmes de la chrétienté, ne se sent absolument pas concerné par cette question. Donc, sont-ils libéraux ? Je vais laisser cette question en suspens. Sont-ils progressistes ? En tout cas, ils l'affirment. Ils ont une croyance dans le progrès lié à la science, lié à une idée de la modernité, mais leur libéralisme porte précisément et surtout sur une attitude vis-à-vis de la foi. Alors après, c'est quelques points qui nous ont servi à éclaircir, la doxa sur les réformateurs et la manière dont on peut la rendre un petit peu plus complexe, un petit peu plus contradictoire. Je voudrais mettre en valeur quelques aspects importants, me semble-t-il, de cette histoire. D'abord, justement, pour prendre un petit peu le contre-pied de ce qui a été fait dans la tradition d'histoire intellectuelle des réformateurs, qui donnait justement une place aux réformateurs par rapport à d'autres penseurs plus modernistes qu'eux, je voudrais faire une place à la pensée dite complètement illibérale, cette fois conservatrice, qui s'est opposée aux réformateurs musulmans. Leurs contemporains, donc, ces soufis radicaux conservateurs. Non pas ceux qui les critiquaient depuis une autre scène de la réforme, non pas ceux qui les critiquaient depuis la Narda séculière ou les penseurs chrétiens, mais bien ceux qui, à l'intérieur de l'islam, prenaient le statu quo. Je pense que c'est important de prêter attention à ces intellectuels illibéraux. Parmi eux, il y en a un sur lequel a travaillé récemment une dame qui s'appelle Amel Razal, qui s'appelle donc Yusuf al-Nabhani, mort en 1932. Je ne l'évoque pas simplement par souci d'équilibre, pour donner la parole aux opposants, mais parce que ses œuvres sont encore aujourd'hui publiées et que son petit-fils, pour l'anecdote, est aujourd'hui l'un des fondateurs du Hizb al-Tahrir en Palestine, puis ensuite il a continué au Liban. En 1909, après la révolution jeune turque, Nabhani prend son poste, perd son poste de président du tribunal islamique de Beyrouth. Il est marginalisé après avoir été proche des plus hautes autorités religieuses de l'Empire, tandis que ses ennemis, les réformateurs ou les wahhabites, triomphent d'un côté avec la proclamation de la Constitution et de l'autre avec un processus qui n'est pas encore arrivé à son terme. Il faut dire que Nabhani n'a pas ménagé sa peine dans sa lutte contre les réformateurs et que le fait qu'il fasse partie des bannis de la pré-révolution n'est pas très étonnant. Il les attaque de manière extrêmement vive, il ne cesse de les contrer et il les empêche par exemple de tenir des conférences ou il appelle à ce qu'on les empêche de tenir leurs conférences, hein, ce qui est arrivé par exemple à Rachid Rida à Tripoli en 1908 pendant la révolution elle-même. Et ce qu'il dit, lui, c'est que Beyrouth et le Caire sont des villes infestées par les missionnaires et les réformateurs qui partagent le même but, dévier les musulmans de leur voie propre pour ouvrir la voie à l'Europe. Vous voyez, donc c'est très clair, hein, la formulation de l'opposition. D'une certaine manière, il rejoint les réformateurs dans l'objectif qu'il affiche, sauf qu'il prône une voie totalement contraire, refuser les enseignements modernes, les sciences et les langues européennes. Par exemple, il dit qu'il ne faut absolument pas apprendre l'anglais. Hein. Ce qui m'a amusé, c'est qu'en février 2012, un salafiste égyptien a dit exactement la même chose au Parlement égyptien. Il est contre leur prétention, la prétention des réformateurs, donc à rouvrir la porte de l'ijtihad, et les appelle des ennemis des croyants, des menteurs, des anarchistes, et un cliché qu'on retrouve assez souvent, des protestants de l'islam. C'est intéressant de prêter attention à cette voie-là à l'époque pour comprendre dans quel débat réel se situent les réformateurs, non pas simplement celui construit par, disons, Hourani et ses continuateurs, mais aussi une tentative des réformateurs d'essayer de contrer ce discours dont il faut bien comprendre qu'il est majoritaire. Quand on dit que les sunnites s'opposent, enfin les réformateurs s'opposent aux soufis, c'est aussi parce que les soufis, c'est l'islam, hein, c'est la majorité hein, de la pratique, des enseignants, de ce qui est transmis. Et ces conservateurs-là sont ceux qui ont la voix politique la plus forte à l'époque. Hein, donc c'est un contexte assez violent. Ce qui nous amène à un autre point, c'est celui de l'évaluation de l'importance et de l'impact, dirait-on, si je n'ai pas ce mot, de la pensée réformatrice. Car les réformateurs, ce sont effectivement fortement investi dans l'éducation, dans la presse, dans l'édition, dans la politique aussi, en devenant des réformateurs au sens politique du terme. Ils se sont associés à des dirigeants en Arabie Saoudite, en Tunisie, dans les mouvements nationalistes un peu partout. Mais il semblerait quand même qu'ils ont agi essentiellement auprès des élites, alors que les textes comme ceux de Nabhani et d'autres circulent, eux, sous la forme de manuscrits ou de manière orale. Ils étaient écrits de manière souvent beaucoup plus simple et beaucoup imagée. Nabhani, par exemple, a essentiellement écrit des rêves, c'est-à-dire des textes dans lesquels il transcrit ses rêves, et où il explique qu'il voit le prophète qui tient dans sa main son livre, ou un livre d'un réformateur qu'il critique, qui n'est pas content, et qui donc il faut qu'il aille contrer les réformateurs. Hein. Donc ça, c'est cette façon-là d'exprimer la lutte hein, qui anime l'islam à ce moment-là, qui semble avoir été la plus populaire et la plus diffusée. Comme l'a admis d'ailleurs Hourani et d'autres après lui, hein, nous n'avons pas, nous les historiens, encore suffisamment travaillé sur les mouvements qu'on ne voit pas ou qu'on voit moins, qui sont les mouvements moins écrits, moins visibles, etc. Troisième élément dans ces compléments, c'est celui des filiations. La question des filiations est toujours évidemment extrêmement complexe. Aujourd'hui, la filiation revendiquée linéaire de la pensée réformatrice, c'est celle des frères musulmans. Disons, c'est les frères musulmans qui revendiquent cette filiation. Mais il est certain que des penseurs comme Sayyid Qutb ont donné au mouvement islamiste une autre coloration. Déjà engagé par la transformation en appareil militant et politique. On peut dire aussi que quelqu'un comme Rachid Rida avait évolué vers la fin de sa vie vers une plus grande proximité avec le wahhabisme. Le wahhabisme, s'incarnant lui-même dans un État, a trouvé une expression propre, mais il est aussi revendiqué par des mouvements encore plus puristes qui le critiquent. Certains mouvements radicaux islamistes aujourd'hui se situent plus, si on les observe de près, dans la filiation des conservateurs comme Nabhani que je viens d'évoquer, et refusent tout lien avec la modernité. Donc la question est de savoir qui sont les réformateurs aujourd'hui. Je ne vais pas y répondre, enfin je crois pas que j'ai réussi vraiment à y répondre. Ce qu'on peut savoir, c'est que le terme de réformateur est aujourd'hui revendiqué par d'autres penseurs de l'islam, qui ne sont pas tous musulmans eux-mêmes, en tout cas pas tous pratiquants, mais qui développent une vision d'une réforme possible de l'islam. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été publiés récemment sur ces nouveaux intellectuels de l'islam contemporain, qui évoquent par exemple de nouveaux penseurs de l'islam dans des contextes d'émigration, de diaspora, de nouveaux intellectuels séoudiens qui critiquent le wahhabisme officiel. Ces travaux soulignent, par exemple, hein, je donne quelques éléments de réflexion, la place nouvelle des femmes dans ce paysage, alors que dans le premier âge de la réforme, quelques figures seulement émergent, dont une sur laquelle j'ai travaillé moi-même, Nazila Zainedine, qui est une intellectuelle réformatrice druze, a à son époque fait scandale, mais a été également considérée comme une des leurs par une partie des réformateurs modernistes. D'autres, comme Bahthiyat al-Badia, donc c'est son pseudonyme, une égyptienne qui a écrit en 1909 un ouvrage qui s'appelle Nisaïyat, était aussi très liée à la réforme musulmane. Sur cet aspect-là, je voudrais dire simplement que une ligne, a été tracée à l'intérieur du réformisme musulman sur la question spécifique des femmes. Puisque un certain nombre de réformateurs, comme Qasem Amin ou Tar Haddad, ou encore Lifar al-Tartawi, ont écrit des traités sur la femme, hein, dont certains sont extrêmement célèbres. Donc il y a une filiation là qu'on peut, par exemple, envisager de mettre en valeur pour comprendre ce que aujourd'hui certains appellent le féminisme islamique, ou certaines appellent le féminisme islamique, comprendre comment ça a pu effectivement prendre naissance dans certains travaux de l'époque. On peut considérer en tout cas qu'à l'issue de la période stricto sensu réformiste, disons, dans l'entre-deux-guerres, les tensions sont très fortes. Elles laissent la place entre de nombreux choix possibles. Si on lit les travaux de Nabhani, qui ont l'avantage d'être très radicaux, lui, il voit un certain nombre de voies. Alors, il y a trois voies pour lui. Il y a le wahhabisme, il y a les réformateurs occidentalisés, et il y a l'islam vrai, qui est le sien, hein, qui est celui de la tradition. Aujourd'hui, si on regarde, on voit qu'effectivement tout ceci s'est vraiment complexifié. Mais déjà dans l'entre-deux-guerres, sa vision simple n'était pas exactement celle qu'on pouvait observer sur le terrain. Il est évident que les contextes politiques et sociaux des différentes régions dans lesquelles les réformistes ont trouvé leur place, ont agi à la fois sur la théorie et sur la possibilité de mettre en œuvre ou pas leur théorie. Du point de vue de la recherche, juste pour l'évoquer comme ça, on assiste aujourd'hui, disons, à un grand retour du soufisme comme objet d'étude, vous le savez peut-être, et à une réévaluation des courants moins élitistes de l'islam, ce qui va nous aider certainement à mieux comprendre comment le réformisme lui-même a été travaillé en opposition et en contact avec ces mouvements plus populaires, plus diffus, et sur lesquels on a un peu moins de sources. Et il me semble aussi, pour finir, que du point de vue théorique, un sujet comme celui-ci, le réformisme musulman, qui m'a donné, je l'ai dit au départ, hein, vraiment du fil à retordre, est piégé par les mots. Il ne s'agit pas, en évoquant la question théorique ici, d'amorcer un énième tournant critique, mais il faut bien comprendre que ces notions de réforme, la notion de réforme, a quelque chose à voir avec une construction liée elle-même à ce contexte colonial dans lequel émerge la réforme. C'est la difficulté aussi de ce sujet, ce que je disais avec le libéralisme tout à l'heure. Si on se revendique réformateur, et c'est une des notions centrales à l'intérieur des courants intellectuels de l'époque. Hein. Quand on dit aslaha, donc rendre bon, améliorer, réformer, il s'agit d'une assignation commune du monde intellectuel qui accompagne une réflexion sur une stratégie à adopter face à un état nouveau hein, du monde musulman à partir du milieu du 19e. Tout ça pour dire, sans vouloir vous assommer de théorie, que on revient, si on réfléchit au mot, à cette idée que on ne peut pas détacher le courant réformateur musulman effectivement de ce milieu, de ce tournant du 19e qui le fait émerger, ou en tout cas qui fait émerger sa nécessité, disons stricte, puisque c'est à ce moment-là que la question même de la possibilité d'une réforme prend sens. Je vous remercie.